Bienvenue sur le podcast Écrire pour soi, où on parle d'écriture et de motivation. Je m'appelle Camilla Morel et je suis autrice de romans imaginaires et libraire. Dans ce podcast, je souhaite vous appuyer dans l'écriture de votre roman, mais surtout vous aider à avoir confiance en votre écriture. Vous pouvez me retrouver sur Écrire pour soi chaque semaine pour faire le plein de motivation et d'assurance, mais aussi sur le Instagram Camilla Morel avec un zéro pour le haut. Le point d'honneur du podcast, trouver le plaisir dans sa passion, en se déculpabilisant. Et maintenant, n'hésitez pas à vous installer confortablement. Je vous souhaite une bonne écoute. Coucou tout le monde, j'espère que vous passez une belle semaine, que ça se passe bien pour vos projets et que vous vous portez bien. Cette semaine, on se retrouve pour un nouvel épisode Méthode d'écriture. Et cette fois, on va parler avec Estelle qui est, je pense, l'une des invitées les plus demandées. Vous avez toujours envie qu'elle vienne sur mon podcast, alors je pense que cet épisode-là va vous faire plaisir. Comment ça va, Estelle?
Eh bien, écoute, ça va très bien. Je suis vraiment trop honorée d'avoir été demandée. Ça fait trop plaisir.
Ben, sache qu'à chaque fois que je demandais est-ce qu'il y a des invités que vous aimeriez que je reçoive, ton nom revenait.
Punaise, c'est fou! Oh là là, je suis trop contente, vraiment quel accueil!
Est-ce que tu pourrais commencer par te présenter si jamais il y a des gens qui ne te connaissent pas?
Oui, tout à fait. Ben, du coup, je m'appelle Estelle, j'ai 23 ans, je suis contrôleur aérien à Paris et depuis 2019, j'ai lancé ma chaîne YouTube About Estelle d'écriture et de lecture parce qu'en fait, c'était ma plus grande passion depuis que je suis ado et j'osais pas passer le pas. Mais là, comme j'étais enfin installée et que j'avais du temps, je me suis dit « c'est parti ». Et depuis, c'est un peu comme si je vivais un rêve, quoi, puisque c'est vraiment tout ce que je voulais qui se réalise. Et voilà, donc j'adore écrire des livres, j'adore en lire, et c'est vraiment, je dirais, une énorme partie de ma vie, et je compte ne jamais arrêter, voilà.
Génial, génial. Donc l'écriture a vraiment une grosse importance dans ta vie.
Est vraiment énorme. Genre, c'est tous les jours, j'écris quasiment tous les jours et après la lecture, j'essaye au moins une fois tous les 2-3 jours, quoi. Voilà. Mm-hmm.
Est-ce que ça te dirait de nous pitcher peut-être un de tes projets d'écriture ou de nous dresser un portrait général, vu que je sais que tu en as écrit beaucoup, beaucoup?
si tu veux, je peux te faire un petit mélange des deux. Pour te faire une présentation générale, j'ai écrit un petit peu de tout dans ma jeunesse, mais j'ai trouvé que mon genre de prédilection, c'est plutôt le contemporain. Et là, je les enchaîne depuis 3-4 ans. Les contemporains très axés, développement du personnage, très lourd émotionnellement, c'est quelque chose que j'aime faire, limite ça me pousse un peu à me livrer et à pleurer en les écrivant, quoi. Et pour parler du coup de mon dernier, qui est aussi mon projet en cours, il s'agit du cinquième mur. C'est donc du coup mon roman numéro 19, en soi ça peut paraître comme un gros chiffre. Et donc il s'agit d'un contemporain qui se passe à Paris et on suit une jeune femme de 23 ans qui mène une double vie puisque le jour, elle est ingénieure dans une boîte et le soir, elle joue au théâtre. Donc, elle a sa propre troupe de théâtre, mais elle le cache à ses collègues. Et tous les samedis soirs, elle joue un nouvel épisode de sa série théâtre. Et un jour, un de ses collègues de travail va évidemment se trouver dans le public et découvrir qu'elle le cache du coup cette partie-là de sa vie depuis 3-4 ans. Et si au début ça va devenir un petit peu son ennemi juré, au fur et à mesure ça va devenir son allié. Et voilà, je ne vais pas dévoiler le reste.
J'adore la vibe. Ben, j'écoute tes vidéos YouTube et tout et je trouve ça trop intéressant quand t'en parles.
Ah, c'est trop gentil, merci. Ben, c'est vrai que celui-là, franchement, j'en suis super fière. Là, je suis sur la fin de la deuxième réécriture, on en parlera sûrement après. Et pour le moment, c'est l'un des projets dont je suis le plus fière de tout ce que j'ai fait, quoi. C'est souvent le cas, je trouve, dans les derniers projets que tu fais. Mais là, c'est vraiment le meilleur, à mes yeux, voilà.
C'est comme un petit coup de cœur.
Exactement, ouais, tout à fait.
Parfait. C'était quoi ton parcours avec l'écriture? Tu as quand même écrit 19 romans, donc j'imagine que tu as commencé jeune.
Oui, ben en fait, j'ai commencé à 13 ans à taper un petit peu des histoires de temps en temps, mais c'était pas vraiment sérieux, j'avais pas vraiment de trame et c'était pas quelque chose que je me disais que j'allais vraiment poursuivre. Et puis à mes 15 ans, je me suis vraiment assise et je me suis dit, ok, Estelle, tu vas mettre le point final sur un roman. Je veux juste voir si j'en suis capable. Et du coup, là, je me suis organisée, j'ai commencé à faire de la planification, etc. Et j'ai terminé justement le projet que je m'étais mis. Et je me suis dit, bah, c'est génial, je peux le faire. Du coup, je vais continuer parce que ça m'a plu. Et à partir de mes 15 ans, du coup, j'ai enchaîné les projets. Et ça, c'est vraiment en fait quelque chose que je fais tous les jours avant de me coucher. Et du coup, quand on additionne les heures de travail passées, et ben, on se rend compte que ça équivaut bien à une bonne dose de roman, quoi. Et aussi, j'ai tendance à écrire plutôt vite. Et du coup, ça s'enchaîne plutôt rapidement. Donc ouais, là j'en suis du coup à mon 19e et je suis en train de préparer le suivant, donc ça ne s'arrête jamais. C'est un cycle qui ne s'arrête jamais.
Est-ce que, par curiosité, là, ça m'a fait penser à une question. Quand tu écris un roman, est-ce que d'habitude tu as plusieurs idées pour les prochains? T'es, comme en ce moment, est-ce que tu as beaucoup d'idées? Ou est-ce que ça devient
alors,
vraiment plus tard?
C'est vraiment, je ne sais pas si c'est un super pouvoir que j'ai. Quand je suis à fond dans un projet, donc dans le premier jet ou au début de la réécriture, c'était comme si mon cerveau fermait toutes les portes d'autres idées. Du coup, c'est pratique parce que je suis 100% concentrée sur ce que je fais actuellement et il n'y a rien qui essaye de dissiper mon attention. Mais à partir du moment où je commence à me rapprocher de la fin, et bien là, automatiquement, je m'ouvre vers d'autres choses. Et c'est souvent là que j'ai l'idée. Et du coup, ben là, c'était il y a 2-3 semaines que j'ai ce petit quelque chose quoi, qui m'est venu en tête pour la suite. Du coup, c'est parfait parce que je commence à le construire dans ma tête et en même temps, je suis sur la fin du 5e mur. Donc, je vais pouvoir enchaîner avec lui en septembre, du coup, probablement. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui est un gros désavantage, je sais, pour certains auteurs qui est constamment des idées comme ça dans la tête. Mais moi, ça se fait de manière plutôt, je sais pas si mécanique, c'est le mot, mais disons que c'est un petit peu moi qui dirige le truc. Tant que je ne suis pas ouverte à une autre possibilité, ben j'ai rien qui me vient. Mais bon, ça c'est peut-être aussi du fait que j'ai beaucoup écrit, parce que je me souviens quand même, au tout début, j'avais une grosse batterie de projets, et pour le coup là, je piochais en fait à chaque fois lequel je voulais écrire. Mais voilà, maintenant je n'ai plus de liste d'attente, entre guillemets, dans ma tête d'idées. C'est plus, quand j'en ai terminé un, hop, qu'est-ce qui me vient pour le suivant, quoi. Voilà.
Ok, donc t'es comme un peu magique.
Un petit peu, tout à fait. C'est très mystique.
Ben, je comprends un peu ton expérience, en fait, parce que en ce moment, je travaille sur un projet et depuis, j'ai pas d'idées. Donc, c'est comme si mon cerveau l'est bloqué, mais j'espère juste que quand je vais finir, ça va faire comme toi. Parce que sinon,
ouais. C'est... On a bien.
J'espère.
Mais oui, c'est parce que ça peut être un petit peu effrayant des fois parce que tu te dis, bon, j'arrive sur la fin, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Mais
ouais, exact.
C'est toujours quelque chose. Après, des fois, il faut un petit peu aller le chercher, mais ouais. La plupart du temps, j'ai envie de dire qu'être écrivain, c'est aussi ça, c'est il y a les idées qui viennent, quoi. Voilà.
Des fois, au bon moment.
Tout à fait.
Super. À part ça, c'est quoi tes aspirations avec l'écriture présentement? Est-ce que ça évolue par rapport à avant? Je sais que tu n'avais pas nécessairement envie de publier en maison d'édition.
Ouais, ben au tout début, quand j'ai commencé, c'était vraiment quelque chose que je faisais pour moi. J'avais même pas l'envie de le partager avec des amis ou de la famille. D'ailleurs, mes proches ont su que j'écrivais que 2-3 ans après que j'avais commencé. Et moi, ça m'allait que ça reste vraiment cette petite bulle très intime entre moi et mon ordinateur. Et puis après, quand je me suis lancée sur les réseaux sociaux, j'ai commencé à avoir cette envie de partage. Donc, j'ai commencé avec Wattpad. Ça m'a plu pendant un an ou deux. Mais après, ça s'est un petit peu retourné contre moi parce que j'ai développé une espèce d'angoisse à l'idée que d'anciens projets soient disponibles sur Wattpad. Parce que c'est vrai qu'en 2-3 ans, t'évolues quand même vachement. Et j'étais plus trop satisfaite de mes premiers livres, quoi. Du coup, j'ai enlevé ce qu'il y avait sur Wattpad. Et depuis, je partage mes livres qu'avec un groupe d'une dizaine d'autres écrivaines sur Instagram qui sont mes bêta lectrices. Et ça me va, voilà. Et à une époque, j'avais eu envie d'essayer la publication en 2018. Mais en fait, je me suis rendu compte après coup que c'était plus une action qui révélait d'une pression, parce que c'était pas vraiment moi qui avais envie, c'était plus parce que tout le monde le faisait autour de moi et que j'avais l'impression que c'était l'étape, la dernière étape, quoi. Une fois que t'écrivais un livre, tu le corrigeais, ben forcément, tu devais l'envoyer en maison d'édition. Mais en fait, après coup, je me suis dit, ah mais non, mais enfin, de un, le projet, ben, il ne correspondait plus tellement que ça. De deux, je l'avais tellement relu dans tous les sens qu'en fait, il avait un peu perdu de son sens à mes yeux. Et heureusement que la maison d'édition à laquelle je l'envoyais m'a dit qu'ils n'avaient plus trop de place pour leur catalogue. Du coup, c'était un refus dans tous les cas, parce que sinon, j'aurais dit, non, non, mais en fait, je ne veux plus du tout. Voilà, et depuis, je me suis vraiment forcée à mettre de côté toute cette pression par rapport à l'édition et de me concentrer juste sur l'écriture en elle-même. Et que si un jour, il y a un projet avec lequel je sens qu'il y a un partage à la clé, que je sens que je veux le présenter au monde entier, quoi, ben là, je passerai le pas. Mais pour le moment, j'ai pas encore trop le projet, donc ça reste entre moi et mes 10 copines de bêta lecture, quoi. Voilà.
Ok, je comprends. Puis, est-ce que tu t'inspires beaucoup de tes lectures, de séries, de films, de jeux vidéo, peu importe, ou même de ta vie?
Alors, ouais, je dois dire que ma source numéro un d'inspiration, ça reste quand même ma vie. Alors, ça peut paraître un petit peu égocentrique de dire ça, mais je trouve que le monde extérieur et même les gens avec qui je passe du temps, c'est une mine d'or, en fait, pour toutes les idées. Surtout que j'écris du contemporain, donc il n'y a rien de plus parlant que ce qu'on va te raconter et ce que tu vas voir, quoi, pour créer des histoires. Donc, c'est principalement, ouais, un peu ma vie de tous les jours. Là, par exemple, pour le cinquième mur, ce dont je me suis principalement inspirée, c'était la propre double vie que j'ai menée pendant 2-3 ans par rapport à YouTube et l'écriture en général, parce que mes collègues de travail n'étaient pas au courant. Et c'est parfait, parce que dans le cinquième mur, j'ai fait en sorte que les collègues soient au courant. Et à la fin du cinquième mur, mes propres collègues l'ont appris aussi. Donc le livre, ma propre vie, était un petit peu en synchronicité. Voilà, mais sinon, j'avoue que j'ai aussi un petit faible pour m'inspirer de séries. Ça m'est beaucoup arrivé. Mais quelque chose aussi qui est très puissant, c'est la musique. Genre, je suis incapable d'écrire sans musique. Et la première étape avant de commencer chaque projet, c'est de faire la playlist. Et là, je suis d'ailleurs en train de construire la playlist de mon prochain contemporain. Donc, c'est indispensable pour moi. Les chansons, je ferme les yeux et je peux juste m'imaginer, en fait, mes personnages, mes scènes, tous mes livres. Donc ouais, sinon je suis pas trop aux jeux vidéo, même si une de mes toutes premières duologies, c'était une fanfiction dans l'univers d'un jeu vidéo. Ça m'avait bien plu. Mais voilà, donc principalement, c'est vrai que moi c'est ma vie, le monde extérieur, je me base vachement sur les émotions que j'ai pu ressentir, s'il y a des gros événements qui me sont arrivés où je me suis dit « Waouh, ça c'était hyper intéressant psychologiquement, il faut que j'en fasse un livre », et bien franchement, j'hésite pas, voilà.
Ok, puis je rebondis sur la thématique du cinquième mur.
Ouais.
Tu avais des appréhensions par rapport au fait que tes collègues pourraient voir ta deuxième vie, on va dire?
Ah mais oui, complètement, c'était... en fait, tout le cinquième mur... explique cette espèce de peur que j'ai ressentie, qui en soi, elle n'est pas, c'est pas quelque chose de lucide, en fait, parce que tu sais très bien que, ben, dans mon cas, c'était l'écriture, la passion, alors que Adèle, dans mon livre, c'était le théâtre. Je le cachais, des fois, j'en dormais pas la nuit, quoi, parce que je me disais, mais si jamais il tombe sur une de mes vidéos, si jamais je laisse quelque chose traîner et tout, parce que j'avais cette croyance énorme que j'allais être jugée, que j'allais être moquée et tout ça, alors qu'en soi, ben, pas forcément, surtout que c'est des gens que j'aime bien, c'est mes amis, quoi. Donc certes, ils peuvent être surpris et se dire « Oh, ben tiens, t'as pas voulu nous en parler, ben voilà, c'est ton droit », mais que jamais, en fait, j'allais être jugée par rapport à ça, mais c'est impossible, en fait, de réaliser que c'est pas si grave quand toi, t'es de l'autre côté et que t'as juste l'impression que c'est le truc le plus gros de la planète et que c'est un... Et que, en fait, c'est... Pour moi, l'écriture, c'était tellement quelque chose qui occupait une place énorme dans ma vie. Et surtout, je le vois quelque chose de très intime. Et du coup, j'avais l'impression que si jamais j'en parlais comme ça aux autres, que, je sais pas, j'allais révéler trop de choses, quoi. Mais du coup, j'en ai fait un énorme secret, alors qu'en soi, ça n'a pas lieu d'être. Et en démarrant le cinquième mur, le but, c'était de justement essayer de mettre ça sur le papier, de libérer un petit peu toute cette angoisse et de faire vivre un personnage, de justement voir son secret révélé. Et je pense qu'intérieurement, c'était aussi une façon pour moi de m'entraîner à le vivre une fois à travers quelqu'un d'autre. Et puis, moi, je crois vachement à la loi de l'attraction et tout ça. Et en fait, je pense qu'en écrivant le truc, eh ben, je me suis fait ressentir des choses et ça a attiré l'événement dans ma vraie vie, quoi. Donc, je ne pensais pas que ça irait aussi loin. Je ne pensais pas que le livre déclencherait tant de choses. Mais écoute, il l'a fait et je pense que je l'ai un petit peu écrit pour ça aussi. Même si au début, je ne pensais pas du tout que ça allait faire ça, mais... Il faut se l'avouer que quand on écrit un livre où on se met un petit peu en scène, et ben forcément, ça nous retombe dessus, quoi. Voilà.
Mais je comprends totalement parce que, pareil pour mes collègues, ça a pris vraiment longtemps, là. Plus d'un an en fait, avant que j'ose dire. Ouais. Et je suis contente pour toi et pour moi qu'on ait réussi comme à dépasser cette part-là parce que c'est quand même lourd un peu de Mais porter oui. ce secret-là. Oh. T'sais, des fois, tu as envie de partager des bonnes nouvelles par rapport à ta passion, ce genre de choses-là, et tu peux pas, et tu restes
Mais oui,
avec
c'est ça.
Ça.
Mais c'est dur, parce que même moi, je commençais à nouer des liens, à avoir des amis. Par exemple, j'ai Alice qui habite aussi à Paris, et des fois, j'allais la voir, et je me disais, mais si, enfin, s'ils voient que je suis avec elle, ils vont se dire, mais c'est qui? Tu l'as rencontrée où? Comment t'expliquer? C'est une fille que j'ai rencontrée sur Internet. Enfin, ah non, mais je partais dans des délires pour cacher tout ça. C'était pas... Enfin, en tout cas, je pense que pour moi, c'était pas très sain. Donc, je suis bien contente d'être sortie de cette spirale. Mais c'est vrai que... Avant, je voulais vraiment que ça n'arrive jamais. Je voulais vivre toute ma vie cachée. Et comme toi, je pense, ça me paraissait insurmontable. Mais bon, ça ne l'est pas.
Ouf. Heureusement. Est-ce que tu penses que cette peur-là te venait d'un événement? Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'en parler à quelqu'un et qu'il y a eu comme un malaise ou quelque chose comme ça?
Ben, pas vraiment. Après, je sais que... Enfin, c'est pas forcément très, très négatif, mais mes parents n'ont jamais vraiment trop compris cette obsession presque que j'avais. Et, enfin... Je pense que c'était pas vraiment de leur faute, tu vois, mais ils pouvaient de temps en temps me dire « Ah, mais t'écris beaucoup, c'est pas cool, tu devrais venir avec nous, nanana. » Et du coup, il y avait peut-être une petite partie de moi qui me disait que l'écriture, c'était quelque chose que je faisais trop et que je devais en avoir honte, mais que bon, fallait pas non plus que ça dépasse une certaine limite, quoi. Mais après, je pense que c'est aussi quelque chose que j'ai vachement fait toute seule, en fait. Je me suis créée tout ce truc toute seule. C'est souvent comme ça. Alors que parfois, il faut laisser sa chance aux autres, quoi, de comprendre et d'accepter. Et la plupart du temps, ça marche. Après, je pense que tu peux aussi tomber sur les mauvaises personnes. Mais ça, j'aurais jamais pu le savoir à l'avance, quoi. Donc voilà, ça a fonctionné pour moi. Je suis contente.
Ouais, ben, c'est un peu un a priori qu'on a aussi avec la lecture, je pense.
Tout à fait.
Des fois, les gens nous disent « Arrête de lire, viens vivre la vraie vie, tu vis pas en ce moment parce que tu lis. » Pareil avec l'écriture, j'ai l'impression. C'est dommage.
Oui, alors qu'en soi, certes, il y a un équilibre à trouver, tu vois, mais pour quelqu'un qui partage pas cette passion-là, mais c'est forcément dégradant et méprisant de dire « Ah là là, mais toi, t'as rien compris à la vie et tout. » Enfin, chacun expérimente les choses comme il le souhaite. Voilà, respectons la vie de tout le monde.
Oui, totalement d'accord. Est-ce que, à part ça, t'as l'habitude de te mettre la pression en écriture dans certaines étapes, si tu veux me partager ça?
Ok. Alors, il y a eu deux périodes très marquées dans ma vie. Je dirais que c'est l'avant et l'après YouTube. Bon, je ne pensais pas que ça allait autant m'impacter de partager tout ce que je faisais avec les gens, mais c'était très naïf de le penser parce que forcément, les gens commencent à te poser des questions sur tes projets, te demander alors, t'en es où? Et même toi, tu prends goût à partager, à faire beaucoup de choses, à être productive, etc. Donc c'est vrai que je dirais que la première et la deuxième année où j'ai commencé à faire des vlogs d'écriture, j'ai eu cette pression, mais encore une fois, c'est moi-même qui me l'ai imposée, de faire un maximum de livres, d'avancer énormément, alors qu'avant, comme j'écrivais toute seule dans ma chambre pour moi, je ressentais mais aucune pression. J'avais une petite rigueur que je m'appliquais à moi-même parce que j'aimais bien finir les choses en temps et en heure et bien avancer. mais je n'avais pas en fait ce regard extérieur qui je sentais peut-être pouvait me juger quoi. Et il y a un an et demi, j'ai un petit peu craqué parce que j'avais comme eu l'impression de me forcer à écrire une trilogie de paranormal, alors que je voulais pas forcément le faire, mais comme j'avais commencé à en parler sur les réseaux, j'avais fait pas mal de vlogs d'écriture par rapport à lui, je me sentais mal de l'abandonner, parce que j'avais peur que les gens me disent « Oh, mais c'est nul, enfin, nous on a suivi toute l'aventure avec toi, tu vas pas nous lâcher maintenant et tout. » Alors que enfin, les gens ne disent vraiment pas ça, enfin, j'ai la meilleure communauté du monde, tu vois, mais on se fait toujours des montagnes quoi, de ce qui peut se passer. Et au final, je me suis juste dit bah, « Stop, j'ai plus envie d'écrire ce livre, j'ai pas envie. » Et je vais pas continuer parce que ça fait plaisir aux gens. Enfin, les gens, ce qu'ils veulent, c'est que moi, je me fasse plaisir en écrivant, quoi. C'est l'inverse. Et du coup, depuis ce jour, je me suis promis que vraiment, j'écrirai mais 100% à mon rythme et les livres que j'ai envie d'écrire. Et depuis, ben, franchement, ça se passe beaucoup mieux. Et j'ai aussi eu le même chemin par rapport à la publication, justement. Au tout début de mes années sur YouTube, ben, c'est vrai que j'ai rencontré d'autres gens qui faisaient comme moi. Et qui, eux, étaient à fond dans « Allez, on tente tout pour le tout, la publication et tout. » Et ben moi, je me suis un peu rangée parmi ces gens-là. Ça me motivait de fou et je suis trop contente parce que, au final, j'apprends plein de choses, quoi, en regardant tous ces gens publier et c'est trop chouette pour eux. Mais c'est vrai qu'il faut vraiment savoir garder son propre chemin et se rappeler que tu as le droit d'avoir aussi tes propres envies, même si elles sont super différentes de celles de tes copines, quoi. Et qu'il n'y a pas qu'un seul chemin, surtout en écriture. C'est vraiment, je trouve... un art ou une passion ou enfin une pratique où ben, c'est personnalisé à chacun d'entre nous quoi et il faut vraiment s'écouter donc ça c'est ouais c'est vraiment quelque chose de très important pour moi de toujours me dire j'écris le projet que j'ai envie d'écrire et c'est ça qui va plaire justement à mon audience quoi et enfin juste la pression, ça n'existe pas. Je me l'enlève de la tête et juste je me concentre sur où j'en suis actuellement et là où je me projette, quoi. Voilà.
Ok, donc aujourd'hui, ça va mieux.
Ça va mieux, tout à fait.
Tant mieux, super. Puis, on parlait un petit peu de tes amies en écriture. Est-ce que ça t'arrive de faire des sessions d'écriture avec elles? Est-ce que tu préfères être plus isolée?
Ok. C'est vrai que moi... De nature, je préférerais toujours écrire toute seule. C'est vraiment ce que je préfère. Parce que je sais que quand il y a quelqu'un, enfin, je vais être je vais être distraite, je vais avoir envie de parler et tout. Et puis, je sais pas, je me sens moins dans ma bulle. Mais c'est vrai qu'avec les filles, on le fait un petit peu moins maintenant parce qu'on a un petit peu moins le temps. Je pense que chacune a un peu pris son envol, donc on a un petit peu moins de temps. Mais au tout début, on se faisait pas mal de petits appels vidéo. Sur Instagram, ça c'était rigolo. Et je sais que ben, Alice qui habite à Paris, on s'en arrive à se voir de temps en temps pour écrire dans un café et tout. Donc ça c'est cool. Donc c'est vrai qu'il y a un petit côté social aussi avec l'écriture de temps en temps. Ça peut être sympa quoi, ça change.
Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Maintenant on va pouvoir passer à la partie vraiment méthode.
Yes,
donc on va entrer planification. Je voulais savoir si tu planifies tes romans, si tu les as toujours planifiés, est-ce que ta méthode a changé avec le temps?
Alors, je dirais que j'ai une méthode un peu chaotique, mais elle fonctionne pour moi. Je dirais que je suis une petite architecte, dans le sens où il faut toujours que je me note des scènes, une trame, moi j'aime bien dire une timeline, où toutes mes idées de scènes, je les mets dans l'ordre. Après, je ne vais pas forcément découper en chapitres, je ne vais pas forcément tout de suite faire un emploi du temps avec tel jour, il se passe telle chose et tout. Et surtout, il y a beaucoup de recherches que je ne fais pas et que je me garde pour la réécriture. Ou alors, je m'arrange pour qu'il n'y ait aucune recherche parce que je ne supporte pas de faire des recherches pour un roman. Ça me coupe en plein milieu de ma scène. Je veux que tout se passe fluidement, que je n'ai pas besoin de sortir, aller sur Google, etc. Donc, je fais la plupart du temps un espèce de méli-mélo de toutes mes idées au tout début. Je note par rapport à mes personnages, par rapport à des scènes, des titres, même des dialogues. Ensuite, j'organise ça justement par catégorie. Je me fais une petite feuille où je mets des petites idées pour tous mes personnages. Mais ça reste assez large. Je ne remplis pas forcément de fiches de personnages parce que, en fait, il y a tellement de choses que je ne sais pas. Et puis, enfin, il y a des détails, par exemple... Enfin, je sais pas quel est son plat préféré et tout. Si jamais j'en ai besoin pour une scène, ben, je vais l'inventer sur le moment, mais je le prépare pas forcément à l'avance. Après, pareil, pour mes scènes, j'écris pas forcément en détail ce qui se passe, mais juste au moins l'enjeu de la scène, quoi. Et après, ben, je me lance directement sur un document Word et je crée vraiment les détails en premier jet, quoi, voilà. Puis après, je surligne au fur et à mesure que j'écris mes petites scènes. Et très souvent, je fais de l'outline en même temps que j'écris, c'est-à-dire que je vais planifier peut-être ma timeline jusqu'à le premier tiers du livre. Et quand j'arrive au premier tiers du livre, et ben là, je vais mieux connaître mes personnages et du coup, je vais avoir une meilleure vision aussi de là où ils peuvent aller. Et du coup, je vais inventer la suite de mes scènes. Et ça, je le fais très souvent. Et du coup, ça m'oblige à faire des petites pauses, des petites réunions avec moi-même, souvent vers le milieu du livre, où je me dis, bon, qu'est-ce qu'on fait pour la suite? Où est-ce que ça va? Mais c'est vrai que c'est très rare que je planifie vraiment jusqu'à la fin de mes romans, avant même de commencer le premier jet, parce que j'ai du mal à visualiser plus que le début, quoi. Donc ouais, je planifie un petit peu, mais c'est pas non plus hyper détaillé. Et surtout, je me laisse énormément de marge de manœuvre pendant le premier jet. Si j'ai envie de dévier, je dévie complètement, quoi. Et je découvre quand même pas mal de choses sur le moment, ce qui peut parfois être problématique parce que tu prévois qu'un personnage, il a une certaine couleur de cheveux, puis en fait, t'oublies. Et du coup, tu le changes en plein milieu. Tu dis, ah mince, il faut que je revienne et que je rechange tout. Voilà.
Tu dirais que ça te prend combien de temps cette planification-là en moyenne?
Je dirais que ça dépend du jour où je veux commencer à écrire le premier jet. En fait, je suis un petit peu en espèce de rétro-planning. Souvent, j'aime bien commencer un premier jet le premier du mois. Je sais pas, ça me motive. Et puis souvent, je fais peut-être un NaNoWriMo ou un challenge. Du coup, ça motive. Et j'essaye que 2 semaines avant, j'ai déjà pas mal d'idées un petit peu en bazar, quoi, que j'ai fait mon premier truc un peu chaotique. Et comme ça, les 2 dernières semaines, c'est là où je m'y mets à fond, que j'essaye de vraiment tout ordonner pour que le premier jour où je commence à écrire, tout soit net, du moins la première partie du roman, quoi. Mais ouais, c'est un peu un truc que je fais. C'est un peu un rush de dernière minute. J'aime bien parce que au moins je pense qu'à ça et ça commence en fait à me mettre limite dans le flow de l'écriture avant même d'avoir démarré le premier jet. Et comme ça, quand je démarre le premier jet, je suis à fond et là je ne m'arrête plus, quoi. Voilà.
Ok, je comprends. Puis tes plans, si j'ai bien compris, tu fais ça à la main, à l'écrit?
Oui, j'ai un cahier
Ok.
où, bah, en fait, j'ai souvent une petite dizaine de pages par projet. Et hop, quand je passe à un prochain, je fais une nouvelle page et tout. Et j'écris vraiment tout avec un stylo. J'ai essayé des applications et des logiciels et tout ça pour planifier de manière digitale. Et franchement, j'arrive pas. Parce que, en fait, comme je fais quelque chose qui est pas du tout organisé, être dans une application qui est organisée, ben c'est pas possible parce que je vais commencer à écrire un peu des trucs sur un personnage, mais du coup ça va me donner des idées sur une scène. Donc j'écris à côté, mais des fois après je reviens. Enfin, si jamais je montrais mon cahier d'idées, les gens, je pense, ne comprendraient pas comment je m'y retrouve. Mais voilà, c'est un gros bordel. Mais moi j'ai besoin de ça, j'ai besoin de gribouiller, d'écrire dans tous les sens. Donc je garderai, je pense, l'outline à la main jusqu'à la fin des temps. Voilà.
Je comprends. Puis, vu que c'est un petit peu un fouillis, comme tu disais, est-ce que ça t'arrive de perdre des notes, de perdre des idées?
Un petit peu, ce qui m'arrive très souvent, c'est que je fais justement une liste de scènes et sur le moment, je me dis, ah ouais, trop bien. Et en fait, quand j'écris, je n'ai pas mon cahier d'outline à côté de moi. C'est très étrange. J'écris avec le souvenir, en fait, de ce que j'avais prévu. Et puis après, des fois, je relis mon outline et je me dis, oh, mais c'est vrai que j'avais prévu que le personnage fasse ça. Et du coup, je dois réinsérer la scène. Mais sinon, des fois, j'oublie un peu ce que je dis pour la description de mes personnages. Parce que très souvent, ça, c'est un truc que je déteste faire. Donc, j'invente un peu au fur et à mesure comment ils sont physiquement et tout. Et j'essaye de le noter dans un coin. Mais souvent, j'oublie. Donc, ça, c'est le truc où je suis vraiment pas un exemple, quoi. Parce que là, pour le coup, c'est le bordel.
Donc, ta méthode se ressemble en fonction des projets, j'imagine.
Ouais, franchement, pour la plupart des contemporains, je fonctionne comme ça. Après, justement, quand j'avais tenté de faire mon paranormal, ça m'avait nécessité un petit peu plus de préparation parce que j'avais voulu créer un système de magie, des créatures et tout ça. Du coup, ça, bah, forcément, il fallait un petit peu penser à l'avance. Et puis, je voulais créer une espèce d'enquête. Donc, pareil, il fallait réfléchir à l'avance. Donc là, j'avais vraiment fait plus de travail en amont. Mais c'est vrai que ça m'avait pas forcément plu. Et c'est pour ça que je pense que je créerai peut-être pas de fantaisie dans ma vie parce que je suis trop impatiente. Quand j'ai une idée en tête, il faut que je fasse une outline en 2 semaines et hop, je veux tout de suite passer au premier jet. Et faire quelque chose où il y aurait besoin de beaucoup de travail en amont, j'aurais pas envie en fait. J'aurais envie de sauter tout de suite quoi sur mon ordinateur. Donc je suis une autrice impatiente. Donc c'est pour ça que le contemporain, pour le coup, ça me convient bien parce que j'ai pas forcément besoin de créer de monde ou quoi que ce soit à l'avance quoi. Voilà.
Ouais, ok. Donc, j'imagine que tu apprécies beaucoup le premier jet.
J'aime beaucoup le premier jet. C'est. Ah ouais, je crois que c'est ma période préférée, mais après, j'aime aussi beaucoup la réécriture. Enfin,
Ok.
les bons côtés des deux sont juste géniaux, quoi. Je ne saurais pas dire ce que je préfère entre les deux.
Donc, ils se complètent un
Ah.
petit peu dans
Ils se
ton
complètent.
esprit.
Ils se complètent
C'est ça.
énormément. C'est cool parce que je sais qu'il y en a qui détestent un des. Enfin, il y en a qui détestent la réécriture, il y en a qui détestent le premier jet. Franchement, moi, je m'estime heureuse parce que d'aimer les deux, c'est rare.
Protégée.
Exactement, oui.
Est-ce que tu es plus team fonceuse ou est-ce que ça t'arrive de revenir en arrière dans ton premier jet pour relire ou même retravailler des passages?
Je suis 100% fonceuse et je suis tellement fonceuse que je ne corrige même pas les fautes au fur et à mesure que j'avance, que du coup la correction automatique saute au bout de 50 pages parce qu'en fait j'écris trop vite sur mon clavier, qu'en fait je me trompe de lettres. Et du coup, les mots sont pas les bons, du coup, tout est souligné. Et du coup, c'est au bout d'un moment où Word dit, ben, il y a trop de trucs soulignés, quoi. Et c'est mon premier jet, en fait, c'est. Enfin, je dirais que c'est un torchon, dans le sens où. Mais en fait, c'est illisible. Et une fois, je me souviens que ma petite sœur m'a dit, mais attends, mais enfin, comment ça te démange pas de au moins ben, mettre des mots qui ont du sens, quoi. Parce que là, enfin, c'est que des mots, mais qui sont ratés. Comment même toi, après, tu te relis? Je lui dis, mais en fait, je ne relis pas. J'écris le livre jusqu'à la fin parce que je ne veux surtout pas casser mon énergie et surtout revenir en arrière. Ben, peut-être que je verrai une phrase qui me plaît pas et je serai en mode, oh non, mais ça, c'est pas bien. Donc, vraiment, je suis en mode fonceuse, mais fonceuse de l'extrême, je dirais. Et du coup, ma première écriture, en fait, c'est une correction déchiffrage. Parce que du coup, il faut mettre les vrais mots, quoi. Mais je m'en sors, je m'en sors. Et pour le moment, en fait, j'ai toujours fait comme ça parce que, bah, pareil, je suis une grosse impatiente. Et bah, je peux pas revenir en arrière, quoi. Je vais même, en fait, je réfléchis aux phrases d'après. J'ai même pas fini celle que je suis en train d'écrire, quoi. Donc, ça va très vite.
Ok, donc tu vas vite, vite, vite parce que tu as comme envie de découvrir la suite, d'écrire la
Ah oui,
suite.
c'est ça,
Ok.
c'est ça.
Mais
Et tu
j'avais
sais, je suis
vu.
un petit peu dans une.
Vas-y.
Désolée, je disais que je suis un
Vas-y.
peu dans une espèce de transe en fait, quand je suis dans mon
Ok.
premier jet. Pendant. C'est un peu des phases de peut-être une demi-heure, 20-25 minutes, quoi, où oh, je suis là et en fait, limite, je regarde que mon clavier, quoi, pour taper les mots. Je sais même pas mon ce qui se passe, quoi. Et ça se trouve, le truc s'est décalé, mais je le vois même pas, quoi. C'est. Ouais, c'est
Ok.
vraiment une séance un peu spirituelle, quoi. Et après, hop, c'est illisible, c'est pas grave. On s'occupera de ça après.
Puis est-ce que tu vois vraiment la scène hyper clairement dans ta tête? Puis c'est un peu ça qui fait que tout s'efface.
Ah ouais,
Ok.
complètement. Je vis en fait dans la scène, quoi. En plus, j'ai la musique, donc ça me plonge vraiment dans
Ok.
l'univers. Donc ouais, je vis le truc, vraiment.
Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'arriver pour ta réécriture et de même pas savoir ce que tu voulais dire parce que les mots sont... Oui.
Ça m'arrive beaucoup. Et des fois, tu sais, je me dis, alors là, il y a ce mot. Donc, c'est un verbe. Et tu sais, il faut que j'essaye de me replonger. Et très souvent, bah, du coup, je change pour un autre mot parce que j'arrive pas à comprendre quel mot j'avais voulu mettre. C'est rare parce que très souvent, les lettres, il y en a peut-être une de mauvaise. Donc, tu comprends le mot. Mais des fois, non, tu peux rester très longtemps à te dire, mais je ne sais pas ce que je voulais dire, quoi. C'est toujours fun. C'est très, très fun comme passage. Mais en fait, une fois, j'ai essayé de me concentrer sur mon premier jet pour que ce soit propre. Et en fait, au bout de 2 pages, ça m'a saoulé parce que du coup, j'écrivais pas assez vite pour mon cerveau, quoi. Et je me suis dit, bon, c'est pas grave, quoi.
Ouais, ben c'est comme ça que tu prends le plus plaisir à écrire ton premier jet aussi. Donc, c'est mieux que tu suives ça. Ouais. Puis, qu'est-ce que tu veux dire par le correcteur, il saute, il fonctionne plus, il décide qu'il... Parce que ça m'est jamais arrivé.
En fait, mais figure-toi que je ne savais pas que c'était possible jusqu'au moment où j'ai commencé à le faire. En fait, j'écris sur Word, précisément Word 2010, parce que j'aime trop l'interface et du coup, je refuse de faire la mise à jour pour avoir une autre. Et en fait, tu sais, ça souligne en vert, en bleu ou en rouge les mots selon si c'est orthographe, grammaire ou ponctuation, je ne sais pas trop la différence de couleur. Et en fait, au bout d'un moment, quand il y a trop de trucs soulignés, je pense que Word, en fait, il en a marre ou alors ça fait trop de mémoire pour lui, bref. Et du coup, il te dit Word ne peut plus prendre en charge la correction automatique. Et toi, donc, tu mets ben, « Ok, t'as pas le choix ». Et là, tout ce qui était souligné s'efface, donc il n'y a plus rien de souligné. Et figure-toi qu'à un moment donné dans la réécriture, ce soit sur la fin, j'arrive à un moment où la correction automatique revient du coup. Quand j'ai corrigé tout ce qu'il y avait à corriger, ben là pour le coup il y a moins de fautes et ben, les fautes reviennent et c'est trop drôle quoi parce que c'est le signe que c'est bon, il y a genre 75% des mots qui sont bien écrits quoi si jamais la correction revient. Mais ouais, ça m'est arrivé ouais.
Enfin, bon. Ok. Ça doit être drôle quand ça arrive. Ah ouais. Ah, ok, tu me lâches comme ça.
Mais tu sais, enfin, j'ai un peu un record, je dis. Avant le cinquième mur, mon record, c'est une centaine de pages. Mais cinquième mur, j'ai fait sauter au bout de 75 pages.
Oh là là.
Ouais. J'en suis pas fière, mais moi, ça me fait rire. Voilà.
Bah oui, c'est drôle. Donc, j'imagine que tu pourrais pas forcément considérer une alpha lecture de premier jet.
Non, ça c'est impossible. Enfin, okay. En fait, c'est illisible quoi. C'est pas possible.
Je comprends. Puis maintenant qu'on a parlé un petit peu de ton premier jet, on va sauter à la relecture. Est-ce que tu fais une relecture complète? Est-ce que tu prends une pause avant de la faire? Comment tu fonctionnes?
Alors, je ne fais pas de relecture, figure-toi. Ce que je fais là très souvent. Quand je termine mon premier jet, je suis un petit peu fatiguée et tout. Donc souvent, peut-être pendant une semaine, je souffle un peu, je fais autre chose. Et après, direct après, j'enchaîne par la correction, je dirais, la plus grosse qui existe, quoi. Parce que là, ça va être toute l'étape où ben, je mets les vrais mots, je corrige et je fais le plus gros, en fait, de la réécriture. Donc, je relis pas vraiment mon livre avant. La plupart du temps, c'est au fur et à mesure que j'écris, dans ma tête, je me dis « Ah, ça, pour le coup, faudra que je le change, ça, faudra que je le change. » Donc, je me fais déjà des petites notes, limite, je l'écris dans mon cahier, quoi. Donc, je sais déjà, en fait, tout ce que je veux modifier. Je prends pas le temps de faire une relecture pour visualiser tout ça, quoi. Puis en plus, je pourrais pas vraiment relire parce que c'est moche, quoi. Voilà. Donc, ouais, non, je n'en fais pas. Je sais pas s'il y a que moi qui saute cette étape, mais...
Non, voilà. Mais justement, j'ai interviewé quelqu'un vendredi et elle m'a dit ça aussi. Mais j'avoue que moi, j'aurais peur de pas faire de relecture dans le sens que ça me permet de me souvenir de tout ce que j'ai fait dans mon projet. Donc toi, est-ce que tu as vraiment une bonne mémoire puis tu te rappelles vraiment de tout?
Ben, en vrai, le fait d'écrire vite, ça fait que la plupart du temps, mon premier jet dure 3 mois, peut-être 4 mois maximum. Donc en fait, quand j'ai terminé de l'écrire, je me souviens encore pas mal de ce que j'avais fait. Mais j'ai aussi en fait une satisfaction énorme à redécouvrir justement mon livre pendant la réécriture. Ça motive beaucoup et je m'empêche de relire justement juste pour le plaisir. Parce que je me dis non, il faut que je garde la redécouverte du texte pour la réécriture parce que comme ça au moins ça motivera à avancer parce que des fois ça peut être un petit peu... laborieux quoi, t'es là, tu réfléchis toujours à comment améliorer, machin. Donc ouais, c'est un petit peu quelque chose que je fais de me dire non, c'est interdit de relire tant que t'es pas à la réécriture pour pas gâcher la première redécouverte quoi du roman.
Ok, pour pas te spoiler.
Tout à fait,
exactement. Ouais, je comprends. Donc c'est plus fun quand t'arrives pour la réécriture.
Ouais, mais après ça cause en effet plus de retour en arrière une fois la réécriture en place parce que du coup je change des trucs, je me dis ah mais en fait ça joue sur le début et là je fais beaucoup d'aller-retour, du coup ça rend la réécriture hyper laborieuse, quoi, et j'appelle ça un peu le bulldozer parce que je vais dans tous les sens. Et peut-être qu'une relecture, ça permettrait de pouvoir faire les choses de manière plus ordonnée, mais je crois que j'aime bien faire les choses de manière chaotique, moi, ça me plaît.
Donc, ça t'arrive souvent, par exemple, d'être au chapitre 17 et de revenir au chapitre 2 pour changer quelque chose.
Okay. Ouais, parce que je vais me dire, ah, mais attends, mais là, en fait, je vais faire ça. Mais du coup, si je fais ça, il faut qu'on ait eu une première mention de ce truc plus tôt. Donc, ouais, là, pour le coup, je saute énormément, quoi, de chapitre en chapitre.
Ok. Tu vois, c'est quelque chose que j'aimerais faire. J'aimerais avoir cette discipline-là parce qu'on dirait que moi, je suis trop paresseuse pour revenir tout de suite. Ah, donc, ouais. Je vais juste le noter quelque part puis je me dis plus tard.
Ouais.
Mais j'aimerais ça faire un peu plus comme toi. Tu disais tout à l'heure que tu avais des bêta lectrices. Pourquoi tu fais appel à des bêta lectrices?
Je fais appel à des bêta lectrices parce que il y a beaucoup de choses que je ne me rends pas compte dans mes projets, notamment ce qui concerne en fait tous mes personnages et mes moments d'introspection en fait des personnages. Je suis une autrice qui peut écrire des tonnes et des tonnes de réflexions où le personnage il est en proie à un dilemme et des fois il n'y a pas de dialogue pendant 4 pages. Et c'est un petit peu trop, et moi ça me plaît parce que j'adore ça, mais c'est vrai qu'elle m'aide à poser un peu la limite de dire bon, là c'est bon, on a compris, elle réfléchit pas non plus, qu'elle remette en question toute sa vie, quoi. Et surtout, au tout début de l'écriture, j'étais extrêmement nulle, employons les termes, à la structure de la phrase. J'avais pas vraiment de base ou quoi que ce soit, parce qu'il se trouve en fait que je lis énormément en anglais et je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal de trucs sur le vocabulaire ou même la structure d'une phrase en français qu'en fait j'avais pas vraiment intégré, quoi. Et du coup les filles m'ont vachement aidée à me dire non mais là attends, faut que tu mettes la virgule là, là faut que tu mettes le point là, et pour elles ça a été hyper dur comme travail au tout début, parce que mes premiers livres qu'elles ont bêta lu, c'est waouh, franchement ça, on revenait de loin. Au fur et à mesure, en fait, j'ai beaucoup appris grâce à elle. Puis chacune a sa spécificité, c'est ça que j'adore. Il y en a une qui est hyper axée vocabulaire. Dès qu'il y a un mot un peu trop, enfin, je vais dire faible, mais bon, on se comprend, un verbe un peu faible, elle me dit « Ah, mais remplace-le par ce verbe-là, ce sera plus riche. » Il y en a une, elle est hyper forte en tout ce qui touche à la ponctuation, etc. Il y en a une, elle est plus sur le sens global. Enfin, je trouve que c'est tellement... ça enrichit tellement le livre, et surtout, mais à la fin, ça le rend mais tellement mieux, quoi. Et puis toi, tu vas toujours toucher une espèce de limite, un petit plafond de ce que tu peux faire avec une histoire, mais l'aide des autres, ça peut permettre de dépasser en fait justement ce plafond. Et ça, c'est un truc qu'il faut vraiment accepter, c'est de faire de ton livre un livre, je dirais pas en featuring, mais il faut pas hésiter à ajouter en fait au livre toutes les idées des autres, et c'est pas ça qui va faire que c'est plus ton livre, ou que toi en fait t'es nul et que t'avais forcément besoin de l'aide des autres. Genre non, moi je trouve que c'est encore mieux si jamais tout le monde a un petit peu contribué, quoi, à la beauté d'un livre, on va dire. Et si avant la bêta lecture c'était une étape que je redoutais énormément parce que je voyais ça un petit peu comme la punition, c'est le moment où où je vais voir à quel point c'est pas ouf ce que je faisais. Maintenant, j'adore parce que chaque petite phrase soulignée, je me dis « Ok, la personne, elle a une idée pour améliorer la phrase. » Et du coup, ça tire le livre vers le haut. Et voilà, j'adore. Franchement, la collaboration comme ça dans l'écriture, c'était quelque chose que je ne savais pas exister avant. Et maintenant, je fais que de ça. Mais moi, je bêta-lis aussi beaucoup les copines, quoi. Et tu apprends. Tu apprends en bêta-lisant quelqu'un et tu apprends en étant bêta-lu. Genre moi, je dirais que la plupart de mon savoir en ponctuation, justement, c'est grâce à Clara. Enfin, tu vois, c'est t'apprends en fait énormément et j'adore ça, quoi. Voilà.
Bah, je plus sois tout ce que tu dis. Est-ce que tu as la même équipe de bêta-lectrices depuis longtemps?
Alors, le cœur des bêta-lectrices, je dirais Clara, Alice, Margot. Ouais, je les ai depuis très longtemps. Morgane aussi. Puis ensuite, j'ai rencontré de nouvelles personnes qui se sont ajoutées au groupe de bêta-lectrices. Et donc, ça évolue pas mal, c'est vrai. Il y en a qui ont un petit peu moins de temps maintenant qu'avant. Et enfin, c'est normal, quoi. Et surtout, moi, je veux toujours envoyer le livre à quelqu'un qui a envie de le faire et qui a le temps de le faire. Parce que Enfin, je me dis, je veux pas que cette personne se mette la pression pour lire mon truc, donc j'envoie, et celles qui veulent, elles y touchent, celles qui n'ont pas le temps, tant pis. Et puis même, je fais aussi, pas forcément de la bêta-lecture, mais de la lecture tout court. Je sais que j'ai une copine qui, elle, en fait, elle aime bien juste lire le livre, sans forcément annoter quoi que ce soit, et à la fin me dire son ressenti. Et ça, c'est aussi génial, parce que c'est une autre façon d'avoir un avis sur ton livre, quoi. Donc, enfin, c'est, voilà, tout est bon à prendre, vraiment.
Et tu y vas avec quelle méthode? Est-ce que tu envoies le document individuellement à chaque personne?
Alors ouais, je fais ça parce que je fais sur Google Doc. Et en fait, si tu mets tout le monde sur le même Google Doc, tout le monde met ses messages. Et en fait, le Google Doc, il crache tellement il y a deux messages. Je vois que tu as compris de quoi je voulais parler.
Oui, j'ai dû séparer mon roman en trois parties. Sinon, ouais, ça voilà. Ne fonctionnait pas. Quoi, voilà.
donc, je sépare par personne. Puis aussi, comme ça au moins, je trouve que chacune voit les choses. Parce que des fois, tu as tendance à réagir aux commentaires de chacune. Et moi, j'aime bien avoir l'avis de chacun, mais séparément. Quoi. Voilà, qu'elles ne s'influencent pas les unes par rapport aux autres. Et quand elles peuvent me faire un chapitre, elles le font. Puis moi, après, je vais ajouter leurs corrections, celles en tout cas qui me plaisent. Mais la plupart du temps, ça me plaît énormément. Et aussi, je fais un truc, ça s'appelle un espèce de briefing. Avant de leur envoyer le livre, je leur envoie une espèce de petite page, une petite page Word, où en gros, je leur dis mes intentions avec le livre pour qu'à la fin, elles puissent me dire si jamais elles ont compris le même message que ce que je voulais dire, quoi. Et surtout, je mets des questions précises, des trucs sur lesquels je sens c'est peut-être pas très stable, ou alors j'en suis pas très fière. Par exemple, est-ce que tu trouves que ce personnage, il est impactant? Est-ce que tu trouves que cette scène-là, elle était bien faite? Comme ça, j'ai leur avis précis sur ce truc-là en particulier, parce que parfois, tu donnes pas forcément ton avis sur tout. Mais là, au moins, je sais. Et puis moi, ça me rassure si jamais elles me disent « Ah, mais non, mais t'inquiète, tu l'as... Enfin, le personnage, je l'ai trouvé bien. » Je me dis « Ok, ça va. » Parce qu'il y a toujours, en fait, des petits trucs sur lesquels t'es moins... Pas t'es moins fière, mais en tout cas, t'as moins confiance que sur d'autres, quoi. Voilà. Donc ça, c'est genre le briefing aussi. S'il y a des trigger warnings et tout ça, je les mets. Et après, elles entrent dans le livre avec... toutes ses intentions et ses questions en tête, et ça oriente un petit peu déjà la bêta lecture, donc j'aime bien aussi, quoi. Voilà.
Mm-hmm. Ouais, ben j'ai fait pareil, je trouve que c'est une bonne méthode.
Ouais. Mm-hmm. Voilà, cool.
Pour la réécriture maintenant, est-ce que tu la planifies?
Alors non, enfin disons que je vais pas forcément dire, ok, dans tel chapitre, je vais modifier ça, je vais rien mettre par écrit, la réécriture, je mets rien à l'écrit, c'est que le texte et moi, quoi. Et du coup, comme je t'ai dit, souvent, j'en fais trois. La première, c'est celle qui consiste à tout corriger, quoi, en gros, donc là, c'est le plus gros du travail. Et si jamais je sais que j'ai des scènes entières à rajouter, je les rajoute à ce moment-là aussi, histoire qu'à la fin de la première réécriture, j'ai toutes mes scènes et elles soient écrites en français. Mais le style d'écriture n'est peut-être pas au point, mais ça, c'est pas grave. Et ensuite, c'est à la deuxième réécriture que là, comme le texte est propre, je peux vraiment travailler dessus. Donc, je vais travailler un peu le style et tout, ajouter des petites descriptions. Et c'est vraiment la plume pure et dure que je vais modifier, quoi. Donc, celle-là de deuxième réécriture, je l'ai terminée il y a 2 semaines. Et ensuite, je fais une... Enfin, c'est pas vraiment une réécriture, mais je lis le livre une dernière fois pour vérifier que tout va bien avant de l'envoyer en bêta lecture. Et ensuite, la troisième réécriture, celle-là, elle est très longue parce qu'elle dépend des bêta-lectrices, mais c'est ma préférée parce que c'est là, en fait, où ben, le livre devient la version finale puisque je rajoute toutes les modifications qu'elles me disent, etc. Et après, le livre est terminé. Mais disons que toutes les scènes à changer, tout ce que je modifiais, c'est assez dans ma tête. Et c'est beaucoup... C'est très spontané. Je vais voir un truc qui me plaît pas, je vais le changer tout de suite. Ok, ça a un impact sur le début, ben ok, je rechange le début. Je fais beaucoup d'allers-retours et c'est pour ça que ça me prend peut-être du temps parce que du coup, je reviens beaucoup sur ce que j'ai déjà fait, mais voilà, c'est nécessaire.
Et justement, le cinquième mur, c'est un gros pavé. C'était combien de mots au départ déjà?
Alors, le moment où j'ai terminé le premier G, il faisait 250 000 mots. Oula. Mais au tout début de la première réécriture, j'avais pas mal de scènes à ajouter au début. Okay. Le plus haut que j'ai fait avec l'ajout de toutes les nouvelles scènes, c'était 270 000 mots au début de la première écriture. C'est beaucoup trop. J'ai dû le couper en deux Word aussi parce que Word, il galérait à ouvrir, quoi.
Ok.
Et maintenant, à la fin de la deuxième réécriture, du coup, j'ai réussi à descendre à 180 000 mots. Donc, c'est presque 100 000 mots de moins. Voilà.
Ouais, c'est très bon.
Et je savais que pour le coup, cette réécriture-là, j'allais énormément l'axer sur la réduction de scènes et de nombre de mots. Parce que c'était le problème de ce livre, j'avais vraiment raconté énormément de choses. Et en fait, au bout d'un moment, tu peux pas avoir 10 000 intrigues. Donc il vaut mieux choisir que s'éparpiller, et j'ai fait ça. Et le livre maintenant, il est tellement plus impactant. Donc bref, je ne regrette absolument pas, quoi. Voilà.
Ouais, au final, ta réécriture a permis de l'améliorer, mais c'est cool aussi que t'aies comme toute sortie ça de toi parce que ça t'a permis de t'exprimer. Tout à fait. Ouais.
Exactement. Et enfin, en fait, je regrette pas, comme t'as dit, parce que sur le moment, ça m'a fait trop plaisir d'écrire toutes ces scènes. Et j'ai pas ressenti ce déchirement en les supprimant non plus, tu vois, parce qu'elles étaient juste pas importantes pour l'histoire et c'est la vie, quoi. Voilà.
Ok. Comment t'as fait pour déterminer ce qui était pas important, justement, puisque tu voulais enlever, parce que c'est un gros défi, là, réduire un manuscrit.
Ah, mais ouais, c'était énorme. Et ouais. Ben, figure-toi que je me suis un peu renseignée, parce que je savais que si je voulais couper au moins 100 000 mots, j'allais pas le faire comme ça, fallait que je m'organise. Et en fait, en regardant un peu des vidéos sur YouTube, premier canal instructif, j'ai vu qu'il y avait trois niveaux sur lesquels tu pouvais travailler. En premier, il y avait vraiment le niveau de l'intrigue. Si tu veux enlever plus de 50 000 mots, il faut enlever une intrigue, parce que c'est pas en supprimant des mots par-ci par-là que tu vas y arriver. Et du coup, moi, j'ai vraiment fait le travail de noter c'était quoi mon intrigue principale, et de choisir parmi mes intrigues secondaires celle qui me tenait le plus à cœur, et de carrément supprimer de A à Z des intrigues secondaires qui me plaisaient pas. Notamment, j'avais tout un axe sur le travail que je voulais mettre dans ce livre, parce que c'était un sujet qui me tenait à cœur, de parler de l'entrée dans le monde du travail. Mais en fait, je me suis rendu compte qu'on parlait déjà de théâtre, de double identité, de premier amour, de faire face à ses peurs, etc. Le travail, ça pouvait attendre un autre livre, parce que sinon, ça ferait juste trop.
Okay.
Donc, j'ai supprimé tout ça. Et mine de rien, j'avais fait beaucoup de scènes là-dessus. Donc, déjà, ça m'a supprimé beaucoup, beaucoup de choses. Ensuite, le deuxième niveau, c'est de plutôt réfléchir en termes de scènes. Parfois, quand on veut aller d'un point A à un point B dans une intrigue, on fait un peu des scènes intermédiaires. Et il y en a, en soi, quand tu fais l'exercice de l'enlever du livre pour voir si jamais tu perds des informations, et ben parfois, t'en perds aucune. C'est juste un dialogue entre deux personnages qui était certes peut-être mignon, mais ben, en fait, ça ne fait pas avancer en fait, ton intrigue, qu'elle soit primaire ou secondaire. Du coup, ces scènes un petit peu de transition... Ce que j'ai fait, c'est que j'en ai supprimé certaines. Et quand j'avais des informations importantes qui étaient dedans, ou quand j'avais peut-être des phrases que j'aimais bien, je les ai réutilisées pour les mettre dans d'autres scènes. Comme ça, ça renforçait les scènes déjà existantes et j'enlevais la scène qui ne me servait à rien. Donc là, tu supprimes quand même pas mal de trucs. Et le troisième niveau, c'est à l'échelle de la phrase. Donc là, c'est vraiment se concentrer sur les mots de liaison qui ne servent à rien, les petits filtres qui servent à rien, retravailler des fois les structures des phrases, même les verbes. Et franchement, ça m'a fait me rendre compte à quel point je rajoutais des trucs qui ne servent à rien dans mes phrases et je ne vais pas à l'essentiel. Je tourne autour du pot avec 10 000 paraphrases des adverbes dans tous les sens, quoi. Et franchement, ça m'a appris de fou de faire ce travail, parce que maintenant, je suis devenue addicte à réduire les phrases le plus possible. Et il faut que je me contrôle, parce que je suis en train de bêta-lire le livre d'une copine. Et en fait, je suis en mode, ok, on voit à quel point on peut supprimer un maximum de mots. Et du coup, je lui tourne toutes ces phrases. Et des fois, je vois que je me dise, non, je suis pas dans cinquième mur. C'est pas grave, tu peux garder la phrase comme ça. Mais en fait, c'est que j'ai tellement vu les bénéfices d'aller plus à l'essentiel et de trouver vraiment la manière d'être le plus efficace possible, quoi, que je pense que je ne pourrais plus ne pas faire ça. Voilà, ça m'a trop plu de faire ce travail, quoi, vraiment.
Ok, donc le cinquième mur, c'était vraiment un roman instructif pour toi.
Ah, mais à tous les points, que ce soit de manière, enfin, que ce soit socialement parlant, pour moi-même, pour ma propre vie, mais okay. Aussi en termes d'écriture, bref, ça m'a fait décoller, quoi.
Je comprends. Puis comment t'as fait pour garder ta motivation tout au long de l'écriture de ce roman-là et de la réécriture, parce que c'est quand même un gros projet.
Ouais. Ben, en gros, là, ça m'a pris entre le moment où j'ai commencé le premier jet et maintenant, ça fait 1 an et 3-4 mois. Donc, c'est très long parce que j'ai l'habitude de faire ça beaucoup plus rapidement. Et pour le coup, sur celui-là, j'ai eu beaucoup de moments de remise en question et de perte de motivation. Et la chose qui m'a fait tenir, c'est de me souvenir pourquoi j'avais écrit ce livre, de me souvenir du message et de me souvenir surtout de la Estelle qui a eu l'idée et qui s'est dit oh, « mais ça, c'est l'idée qui me fascine, quoi ». Et en fait, la vision que j'avais de ce livre, la vision finale, je n'ai jamais lâché cette vision finale en me disant « tu vas l'atteindre, tu ne t'arrêtes pas tant que tu ne l'as pas atteinte ». Et quand je perdais la motivation, ce que je faisais, c'est que j'essayais de chercher des nouvelles chansons pour ma playlist, ou alors je relisais mes passages préférés pour me remettre dedans. Mais la technique la plus imparable, c'est de se forcer à continuer et d'être tout le temps dedans, tout le temps dedans. Parce que je me suis rendu compte que quand tu coupes pendant une semaine, après, tu te détaches un petit peu de l'histoire et tu deviens un petit peu blasé. Alors que quand tu te forces à rester dans le mouvement et t'es dedans, quoi, ben en fait, t'as une espèce d'euphorie constante parce que tous les jours, tu fais des progrès. Et moi, vraiment, je suis addict au progrès. Dès que je vois que j'ai fini un chapitre, je suis hyper satisfaite et ça me motive à continuer, quoi, parce que justement, je me rapproche de cette vision finale. Donc, je me suis limite fait un petit mantra, quoi, de me dire « t'as eu l'idée de ce livre et le message te tient à cœur. Tu peux pas t'arrêter là. Tu t'arrêteras pas tant que t'es pas arrivé à la version que tu vois dans ta tête, quoi. » Et c'est vrai que maintenant, c'est plus facile parce que je vois la fin. Mais au début, quand j'avais mes 270 000 mots et que je savais qu'il fallait que j'en enlève 100 000, il faut vraiment voir étape par étape, jour par jour. Parce que si tu sais que ça va prendre 1 an, ça peut te démotiver. Mais parfois, ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans. Et ouais, il faut vraiment voir chaque progrès, même aussi petit qu'il soit, comme un pas en plus vers l'objectif final. Et il faut faire des petits pas pour au final arriver à l'objectif final. Mais c'est pas facile.
Ouais, c'est sûr. Mais ça nous fait une petite mine d'or de conseils.
Ah ouais.
Est-ce que tu as des habitudes qui te motivent à t'y mettre, à te lancer dans tes séances ou ça, t'en as
Je sais que... J'ai un petit rituel quand même. Moi, souvent, j'écris le soir. Donc, okay. Je me douche et tout. Je me fais soit ma petite infusion ou mon petit thé glacé l'été. Je me mets dans mon lit, je me mets ma musique et là, j'y vais. Et enfin, vraiment, c'est tellement devenu une habitude ancrée dans mon quotidien que j'ai même plus besoin de me forcer à le faire. C'est naturel pour moi. C'est quand je le fais pas que je me dis « Ah, oh, j'aimerais bien rentrer chez moi, là, quand je suis avec des gens et tout, je veux rentrer chez moi, écrire, etc. » Donc, c'est vraiment mon petit rituel de mettre dans mon lit, d'ouvrir mon ordi et tout. Et j'ai pas besoin de plus. En vrai, je suis pas non plus si compliquée que ça, quoi, voilà.
Ok. Puis, on a un petit peu abordé le sujet déjà, mais j'imagine qu'en général, dans tes projets, entre le premier jet et ta réécriture, ça change beaucoup.
Énormément. Je dirais que, allez, il y a peut-être 50% du texte qui change, peut-être un petit peu plus, mais je garde quand même vachement de mon premier jet en termes de mots, de phrases et tout, parce que souvent j'aime bien ce que j'écris en premier jet, mais après ce que je vais changer, c'est peut-être la disposition des phrases, etc. Et après, en termes de scène et tout, bah forcément ça change beaucoup, et là le cinquième mur, il a été métamorphosé avec tout ce que j'ai supprimé et j'ai rajouté aussi quelques scènes. Ça, c'est très récurrent pour moi de rajouter des scènes après coup. Et j'aime bien voir comment ça se marie justement avec les anciennes, quoi. Donc, je dirais que si on avait lu la version après correction et la version là maintenant, il y a déjà quand même un gros chemin qui a été parcouru. Et puis après la bêta lecture, ça m'a encore énormément changé. Et franchement, je suis grave ouverte à ça. Genre, si le livre, il a plus du tout la même tête, ça me dérange vraiment pas. Je suis pas non plus attachée à mon premier jet. Au contraire, au plus je le travaille, au mieux c'est, quoi.
Ok. Puis, est-ce que t'as une méthode de réécriture, une façon de travailler? Ou c'est vraiment juste, tu vas sur ton document, puis tu te lances?
Ben, je dirais que je fais un peu par étapes. J'arrive pas à, par exemple, prendre un chapitre et me dire, ok, je rends ce chapitre parfait. Parce qu'il faut que je réfléchisse, du coup, à l'orthographe, aux phrases, au style d'écriture, si j'ai bien fait la description, si j'ai bien fait passer mes émotions. Et du coup, je me mélange et j'ai l'impression que quand je veux checker toutes les cases, du coup, j'en check un peu aucune. Donc, ce que je fais, c'est que du coup, avec mes différentes réécritures, je vais cibler des choses à chaque passage. Comme ça, pendant tout mon passage, je réfléchis qu'à une seule chose et je change bien ça. Donc, par exemple, au tout début, ça va être vraiment purement correction orthographe et aussi réfléchir au sens de la scène, quoi, si je change tout ou je réécris tout. Et je dirais que le travail pur, vraiment, de réécriture pure et dure, où tu réfléchis à ligne par ligne, mot par mot, ça, bah, du coup, je le fais plutôt à la deuxième. Et ça, c'est complètement une autre façon de voir les choses, parce que bah, tu t'arrêtes sur chaque phrase, tu réfléchis un peu à chaque mot. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris à faire, parce qu'au tout début de mes réécritures, j'allais pas jusque-là. Moi, déjà, je corrigeais, ça m'allait très bien. Mais en fait, il faut apprendre à aimer le travail des mots, le travail de la phrase. Et ça, c'est la bêta-lecture qui me l'a appris. Parce que comme les filles, vraiment, elles me pointaient chaque virgule, chaque mot, etc., ben, je me suis rendu compte du pouvoir de chaque virgule et de chaque mot, et d'à quel point, en fait, savoir bien les placer, ça pouvait faire toute la différence. Donc maintenant, c'est vrai que je dirais que c'est ça, ma partie préférée de la réécriture, c'est le moment où je fais vraiment du phrase par phrase. Et de juste me dire, tiens, où mettre la virgule, dans quel sens je mets mes deux adjectifs. Voilà, c'est mon grand kiff.
Vraiment d'embellir le petit joyau au fond.
Ouais, tout à fait.
Maintenant, j'aimerais passer à une partie un peu plus qui es-tu en tant qu'auteur. Je me demandais, okay, si tu avais la confirmation que personne ne lirait jamais ce que tu écris, est-ce que tu écrirais différemment, tu penses?
Je dirais que non, parce que je suis partie avec déjà ce constat-là. Quand j'étais petite, mon contrat de base avec moi-même, c'était de toute façon, t'écris pour toi, donc personne d'autre ne va jamais lire, donc tu fais ce que tu veux. J'ai jamais censuré quoi que ce soit et j'espère ne jamais avoir à le faire. Et c'est pour ça que j'adore autant mes projets, parce qu'en fait, c'est 100% moi de A à Z. La chose que j'ai dû apprendre à faire, c'est d'accepter, entre guillemets, la critique, justement avec la bêta-lecture. Au tout début, j'étais un petit peu agacée parce que je me disais, mais non, mais elles vont me faire tout changer, quoi, je veux pas. Mais en retournant le truc, je me suis dit, non, au contraire, elles t'apportent une modification. Et en fait, à toi de voir déjà si elle te correspond, parce que parfois ça te correspond pas et du coup bah, tu le prends pas. Mais des fois, même toi, en fait, ça t'aide, ça te développe de nouvelles idées et ça rend en fait le livre plus moi encore qu'avant, quoi. Donc là, pour le coup, il faut pas voir en fait la bêta-lecture pareil comme une façon de modifier un petit peu ton texte, mais plus une manière de le rendre encore plus toi et de l'embellir. Et la fois dans ma vie où j'ai senti justement aussi que je me censurais, c'est quand j'ai voulu envoyer en maison d'édition, que je suis rentrée dans une phase où en fait je voulais changer tout mon livre parce que j'avais trop peur de toutes les phrases que j'avais écrites, qu'elles étaient peut-être trop ci ou trop ça. Et je l'ai rendu, mais complètement, je dirais, mais terne, parce que j'avais retiré à mon livre toutes les petites bizarreries qui font qu'en fait c'est mon style d'écriture et que c'est moi qui l'a écrit. Et là, je me suis dit, ok, stop. C'est mon signe que ça va pas, parce que je veux pas publier un livre où on n'a pas l'impression que c'est moi. Et justement, je trouve que ben, ce petit truc qui peut-être va faire « Oula, ok, ça j'avais jamais lu avant », cette petite bizarrerie, ben, c'est ça qui va faire que c'est ton style d'écriture, quoi. Et que du coup, peut-être que si jamais tu veux publier, ça peut faire un livre qui peut marquer, quoi. Donc vraiment, moi je suis contre la censure en écriture. Il faut y aller à fond, à fond, à fond, à fond. Et même si c'est... Parfois, il faut apprendre un petit peu à se libérer à l'écrit, c'est pas facile. Je conseille à tout le monde de faire l'exercice vraiment d'écrire un livre comme si c'était que eux qui allaient le lire, parce que je trouve que tu mets tellement d'émotions, tu mets tellement plus de toi-même, ça rend le truc explosif, quoi. Vraiment, j'adore.
Ouais, puis ça rejoint le titre du podcast. Je trouve que t'es comme l'invité parfaite pour exprimer, écrire quand, pour soi.
Vraiment, j'adore ce titre. J'adore ce titre.
Tant mieux. Et est-ce que tu penses que les réseaux affectent ton écriture?
Je dirais que au tout début, ça pouvait même amener de la pression. Mais maintenant, il m'affecte dans le bon sens du terme. Parce que bah, justement, ça permet de faire des rencontres avec des gens qui peuvent me tirer vers le haut et m'aider, etc. ça me donne aussi d'autres façons de voir les choses. Je sais que ben, j'apprends beaucoup de toutes ces autres personnes qui font les choses très différemment de moi, quoi. Ça me donne de nouvelles idées. Puis j'aime bien me tenir au courant un petit peu de ce que fait tout le monde et tout. Enfin, juste, j'adore cette communauté parce que tout le monde fait tellement un truc différent. Tu peux pas t'ennuyer, en fait. C'est juste trop intéressant de découvrir la façon d'écrire de chacun. Et je pense que toi, avec ce podcast, tu dois avoir tellement plein d'auteurs différents avec des méthodes différentes, quoi. C'est juste trop, trop chouette, je trouve, d'avoir ce côté si unique dans la façon de faire. Et j'essaye vraiment de récupérer que ce positif-là, quoi, des réseaux sociaux.
Ouais, ben justement, j'aime beaucoup le format méthode d'écriture. Pour ça, c'est intéressant de voir les différences entre les méthodes de tout le monde. Et parfois, je me dis, bon, est-ce que je pourrais pas essayer ce petit truc-là que telle personne fait? Ça pourrait être cool et tout.
Ouais.
Donc, vraiment d'accord. Est-ce que tu dirais que pour toi, c'est le meilleur côté des réseaux?
Ouais. Je sais que les réseaux, ça peut... Enfin, tu peux vite tomber dans une spirale où il y a beaucoup de choses négatives qui sont là. Et si tu tombes dedans, ben, tu tombes dedans. Mais franchement, moi, je choisis, c'est un truc que je fais consciemment, de faire obstruction de tout ça, quoi. Et de me concentrer que sur les gens, ce qu'ils ont à m'offrir. Et j'ai vraiment l'abonnement facile. Bon, ça peut paraître un petit peu condescendant de dire ça, mais en fait, je veux vraiment suivre des gens où leur projet m'intéresse, j'aime bien leur personnalité. Et où vraiment, en fait, je peux voir leur contenu. Parce qu'au tout début, j'avais tellement de gens sur Instagram qu'en fait, je ne voyais même pas les stories de tout le monde. Et du coup, je n'arrivais pas à suivre un petit peu tout ça, quoi. Et ouais, j'aime bien me consacrer à 100% à chaque personne que je suis, quoi. Et à prendre, voilà, bah, pareil, que le positif de cette personne. Et surtout... En écriture, enfin franchement, je trouve que la communauté écriture, elle est géniale. Bon, après, voilà, chacun s'entoure des gens qu'il aime bien, quoi. Il y a de tout pour tout le monde, hein, mais ouais, moi, j'aime trop. Puis, surtout avec notre petit groupe, là, de copines, on fait des événements et tout, donc enfin, j'aime trop. Ouais, franchement, moi, j'aime bien ce côté réseau, ce côté social et tout, ça me plaît beaucoup.
Ouais, je suis totalement d'accord. Puis, à part ça, j'ai un dernier tout petit segment. Que oui. Celui-là, je ne te l'ai pas envoyé. C'est le segment comptoir à potions. C'est un genre de petit jeu. En fait, on imagine que j'ai différentes potions qui pourraient te permettre de sauter une étape du processus d'écriture ou de changer un peu ton rapport. Puis, je vais te demander laquelle tu choisirais.
Donc, on va commencer. OK, j'adore.
Laquelle tu choisirais entre une potion qui te permettrait de sauter la planification, le premier jet, la relecture, la réécriture ou le synopsis?
Le synopsis.
Ça m'étonne pas trop.
Alors déjà, parce que je n'ai jamais fait de synopsis de ma vie quasiment. Les seules fois où j'ai dû en faire, c'était pour faire des petits synopsis pour Wattpad. J'ai détesté ça. Okay. Oh mon Dieu, horrible. Et pour le moment, je n'ai pas eu à en faire pour de publication. Donc, je suis bien contente parce que je trouve ça horrible. Genre, quand je m'imprime mes propres livres, je ne mets pas de synopsis. Derrière, il y a un extrait. C'est pas un synopsis.
Non, donc, mais c'est difficile, un synopsis. Et un résumé aussi.
Ouais.
Surtout avec un livre de 260 000 mots.
Ah ouais.
Et maintenant, si je t'offrais une potion qui te permettait de t'améliorer dans quelque chose, est-ce que tu choisirais les dialogues, les descriptions, les premiers chapitres ou les fins de romans?
Ah. Je vais dire les descriptions.
Okay.
Parce que je n'aime pas les faire. Ça me plaît pas. Franchement, c'est une partie de l'écriture que j'aime pas. Et si au début j'étais en mode mais non mais il faut absolument le faire et tout, donc je me forçais à faire un peu des trucs, maintenant notamment pour Cinquième Mur, si je me suis pas forcée à faire des descriptions histoire d'eux, j'ai décrit quand je voulais, quand je trouvais ça intéressant. Mais c'est vrai que des fois je me dis, il y a des gens qui aiment les descriptions, qui aiment en lire, qui aiment se faire une idée de là où on est, des personnages, et moi, mais je ne leur donne aucune information. Donc, si quelqu'un pouvait me rajouter des petites descriptions par-ci par-là, avec une petite baguette magique, ça me ferait très plaisir, en effet. Voilà.
Ok, parfait. Puis, dernière potion. Si je pouvais t'en offrir une qui rendrait toutes tes scènes d'un type quelconque meilleure, laquelle choisirais-tu entre scène d'amour, scène d'action ou combat et scène plus profonde?
Je dirais action-combat, parce que, encore une fois, je suis très très nulle à la scène d'action-combat. Je ne pratique pas beaucoup, je les pratique quasiment pas, parce que dans mes contemporains, c'est rare que les gens se battent, et il n'y a pas vraiment de scène d'action. Disons les termes, il n'y a pas de scène d'action. Donc, quand je dois, je me rappelle, pour mes paranormaux, je devais écrire des scènes où ils se battaient. Mais en fait, je me sentais ridicule parce que je savais pas. Et je pense à Margot qui a un livre dans lequel on se bat à tous les chapitres. Waouh. Genre, franchement, ça demande des skills que je n'ai absolument pas. Donc, ouais. Apprenez-moi à faire des scènes d'action parce que...
Mais c'est un gros défi.
C'est un énorme... Parce qu'il faut que les gens, ils soient surpris, ils soient dans le suspense et... Oh là là, c'est dur à faire ça.
Et mettre en mots plutôt que dans un film. En fait, on essaie d'arriver à l'aspect film, mais c'est quand même impossible.
Mais on peut pas.
Bon, ben c'était tout pour mes questions. Est-ce que tu aurais comme un petit mot de la fin pour les auditeuristes? Quelque chose que tu aimerais ajouter?
Mon petit mot de la fin, ce serait de toujours garder cette liberté en écriture. C'est vraiment quelque chose auquel je tiens, ce côté de liberté, que ce soit dans choisir les livres qu'on a envie d'écrire, dans choisir d'y aller à fond et de ne pas se censurer, et toujours rester maître de ses choix et de ce qu'on a envie de faire, et de se dire qu'à la base, l'écriture, c'est toi toute seule devant ton ordinateur et qu'il n'y a personne d'autre. Et que si jamais tu as envie que ce soit partagé, ben pareil, c'est aussi ton choix, quoi. Mais voilà, il n'y a pas de pression à se mettre. C'est quelque chose de libre, voilà.
100% d'accord. Ben, merci beaucoup, Estelle, pour
merci à toi.
Tes réponses. Tu étais super généreuse dans tes réponses.
Ah ouais, je parle beaucoup.
Mais non, t'inquiète. Merci beaucoup.
Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à me laisser une note et un commentaire sur Apple Podcasts ou à me contacter sur Instagram pour en discuter. Je poste là-bas très régulièrement et vous pourrez y retrouver du contenu sur l'écriture, la productivité, la lecture et la motivation. Nous nous retrouverons pour un nouvel épisode très bientôt. Jusque-là, j'espère que vous prendrez du plaisir à écrire pour vous.